Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'atmosphère surchauffée et chaleureuse du théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré en cette fin de mois de juillet à l'actualité littéraire avec la navigatrice à la voile Patricia Martin des petits matins de France Inter du week-end et avec les capitaines ad hoc de la critique, j'ai nommé Michel Crépu de la NRF avec Éric Neuhoff du Figaro littéraire et avec Arnaud Vivian de Transfuge de Regards et de l'indispensable revue Charles. On parle ce soir des livres de Isabelle Autissier, de Jean-Christophe Ruffin, de Philippe Villain, de Nico Walker et de Lorraine Groff dans le courrier de la semaine. Pascal Le, lectrice assidue de Bordeaux, n'est pas contente. Votre unanimité à faire lire East Village Blues de Chantal Thomas au seuil m'a laissé perplexe. N'est-ce pas votre devoir de prévenir les lecteurs qu'après le charme des premières pages et l'habile décollage vers New York, s'ensuit une enfilade de parties au final indigestes qui finit par gâcher la découverte d'un quartier attachant. Je vous propose de me racheter mon exemplaire pour l'offrir à l'un de vos ennemis. C'est vraiment, c'est pas bien ça. Je suis pas d'accord, Pascal Le. Moi, j'aime beaucoup ce livre, Arnaud aussi.
Oui, moi aussi. Oui.
Donc, on persiste. Moi, je l'offrirai à un ami. Monsieur ou Madame Olivier nous conseille, ça je l'ai pas lu, Bret Easton Ellis et les autres chiens chez Gallimard de Lina Wolf, romancière, dont l'origine suédoise ne doit pas être confondue avec le très en vogue polar nordique. C'est en effet du côté de Barcelone que se situe son histoire, où les traces de Roberto Bolaño imprègne ses pages. Elle en est d'ailleurs la traductrice en suédois. Écriture nerveuse, nous dit cet auditeur ou auditrice, et danse qui a du style. Philippe Van der Hoven, qui habite la Belgique, a senti pendant l'émission naître chez Michel Crépu un tropisme pour le De Natura Rerum de Lucrèce. Je ne saurais trop lui conseiller de se plonger dans Quattrocento de Stephen Greenblatt, qui raconte la passionnante découverte du manuscrit de ce chef-d'œuvre au XVe siècle dans un monastère allemand, et c'est chez Flammarion. Tu l'as lu ce livre-là?
Non, je n'ai pas lu.
Eh bien, je te le conseille avec Monsieur Van der Hoven. Autre conseil, toujours pour Michel, que t'envoie Frédéric Chapon, qui a lu, qui a aimé ton livre Beckett, 27 juillet 1982, 11h30, où Michel Crépu cherche en vain, écrit-il, à mettre la main sur la retranscription de son entretien avec Sam, qui fait l'argument de son livre. J'aimerais lui conseiller la lecture du dernier livre de Rick Bass, qui, après avoir rendu visite à certains de ses mentors, dont Joyce Carol Oates, se propose de mettre de l'ordre dans sa paperasserie, et c'est sur la route et en cuisine, chez Christian Bourgois. Tu ne l'as pas lu non plus?
Non plus.
Encore une lecture d'été.
Je note, je note.
Paul Larreia, qui habite Pau, juge que, à l'exception de Patricia Martin, le masque a été injuste et exagérément sévère sur la chance de l'écrivain de David Lodge, qui nous enchante par la lucidité de plusieurs de ses analyses. Lodge est un amoureux des figures de style. Il parle de la métaphore et de la métonymie avec beaucoup d'à-propos et de clarté. Mais je ne vous en veux pas de ne pas avoir aimé ce livre et je continuerai d'être accro à la série, ça j'aime beaucoup, Game of Mask. Pas mal.
Ah, c'est hein, pas mal ça.
En revanche, et pour finir, Marie Simio, qui est universitaire non écrivaine et néanmoins très occupée, reproche à la même Patricia Martin d'avoir dit dans cette émission, toujours concernant David Lodge, que Lodge était un universitaire et donc qu'il avait du temps libre, sous-entendu, pour écrire des romans.
Pas, il ne travaille pas à la
non,
chaîne.
Non, dit c'est, Marie bah, Simio.
Un peu
non,
plus que d'autres.
Non, je peux finir ma lettre? Non, Patricia Martin. La vie des universitaires ne s'arrête ni aux cours, ni aux fameux colloques et séminaires chers à David Lodge. Les enseignants-chercheurs travaillent à plein temps, souvent le samedi, parfois le dimanche, et très régulièrement pendant leurs vacances. Mmh. Oserais-je vous demander ce que vous faites, Patricia Martin, lorsque vous n'êtes pas à l'antenne?
Je travaille quasiment 7 jours sur 7,
cher
c'est
Marie
vrai,
Simio,
et pourtant je ne suis que 3 jours à l'antenne.
Ce que ne fait pas Patricia Martin,
quand elle travaille. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'on a quand même une liberté que d'autres n'ont pas quand ils doivent être à 9h du matin à leur boulot et qu'ils en sortent à 19h.
Débrouiller avec tous les universitaires
mais
de France.
Mais non, j'adore les universitaires. Navarre,
que tu le veuilles ou non. Allez, pour le plus grand bonheur de notre ami Michel Crépu, qui a souvent à cette tribune... Et parfois, je dois avouer...
Oh, je te vois venir.
Vrai ou pas vrai, ce que je vais dire? C'est vrai. Michel Crépu, qui a souvent à cette tribune déclaré sa flamme à Isabelle Autissier.
Ah, voilà.
Bon, non, parfois, tu as essuyé quelques rires, mais tu as persisté. Voici donc, pour ton bonheur, oublier Clara chez Stock, la navigatrice et présidente du WWF France, ça je pense que tous les auditeurs de France Inter connaissent, et sa voix et son message. Donc là, elle nous emmène cette fois à Mourmansk, au nord du cercle polaire, sur un lit d'hôpital où il se meurt. Rubin, un patron de chalutier, qui fut d'ailleurs une sacrée brute, voudrait enfin savoir ce qu'est devenue sa mère, scientifique, spécialiste de l'uranium. Elle a été arrêtée sous ses yeux d'enfant par les sbires de Staline en imperméable noir et envoyée au goulag. Rubin va donc demander à son fils Yuri, qui est ornithologue exilé aux États-Unis, de mener l'enquête sur sa grand-mère, sur Clara, et donc le forcer à remonter le cours de l'histoire sur 3 générations. Michel, tu avais dit du bien ici de « Seule la mer s'en souviendra » et de « L'amant de Patagonie », ces romans précédents.
Que je n'ai pas lu.
Tu as autant... Pardon ?
Que je n'ai pas lu. Ça commence très mal, mais le précédent livre de d'Isabelle Autissier.
La chaleur, à mon avis, l'a un peu trop
aimé,
tapé.
Hein. Je l'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Perdu, ou je sais plus.
Mais pas les romans.
Et les romans d'avant, je ne les ai jamais lus, mais je ne me dédie pas. Je maintiens que j'avais beaucoup aimé le précédent, dont j'ai oublié le titre, mais qui racontait l'histoire d'un type tout seul sur une île, d'un seul coup, et qui réalise qu'il est perdu.
Déjà le résumé.
Non,
il n'était pas tout seul. Hein.
Je trouvais que ce livre était un livre très fort, et je le maintiens complètement. Alors, évidemment, si on veut tailler un short
évidemment.
Et dire, bon, voilà, c'est du tricot pour l'hiver, d'accord, stylistiquement parlant, je ne vais pas dire que Isabelle Autissier, c'est Benjamin Constant, dont on reparlera dans les...
Mais tu l'avais comparé un peu à Melville, hein, là je parle sérieusement.
Non, je crois pas, quand même.
Tu avais dit entre Melville et Conrad.
C'est pour l'hiver aussi.
J'ai pu prononcer le nom de Conrad. Mais là, on n'est pas chez Conrad ni Melville, on est... Elle a cherché, je ne sais pas comment elle est venue à avoir l'idée d'écrire ce livre, qui, alors c'est pas l'océan, c'est la toundra goulagienne, mais ça y ressemble terriblement. Donc il y a quand même un point commun entre les deux, entre cette expérience de la mer, de l'océan qui perd tout, et l'espace du goulag qui aussi est une sorte d'infini prison. Et là, il y a l'embarras du choix dans cette histoire qui n'est d'ailleurs pas vraiment écrite. Non, je parle pas de Isabelle Autissier, je parle de l'histoire du goulag et de ce qui s'est passé. Et donc, elle en fait quelque chose qui a le mérite d'exister, de tenir debout. Et donc, je défends complètement ce livre, oui, absolument, tout en sachant très bien que, oui, bien sûr, ce n'est pas du Benjamin Constant, que j'aime beaucoup par ailleurs. Et voilà.
Merci, Michel.
Non,
merci.
Je t'en prie.
Patricia?
Non, mais elle-même, elle est très relaxe par rapport à ça, parce qu'elle dit, oh, moi, je suis écrivaine, je sais pas, je suis marin, oui, écrivaine, j'en sais rien, j'écris. Elle est extrêmement modeste. Comment est-ce que c'est parti?
On devrait dire marine, je trouve.
Marine, absolument. Ouais. Non, mais attends, t'imagines quand même, elle a fait des trucs, première femme à faire le tour du monde à la voile.
Je vote marine.
Solitaire. Non, écoute, tu pourrais t'abstenir. Non, mais peut-être, je ne sais pas d'où c'est parti, mais rien que sa description de Mourmansk, par exemple, cette ville complètement déglinguée, polluée, la neige est noire, les forêts sont complètement
le clair de lune de Mourmansk.
Non, mais c'est, enfin, ça, je trouve qu'elle le décrit très bien. Elle a un bel art de la description.
Mais aucun de vous ne parle de l'histoire. C'est quand même une histoire.
Mais c'est une histoire d'une femme qui a
cette mère qui disparaît.
Absolument. Et cette femme qui disparaît.
Une mère qui disparaît.
Et qui apparaît à la fin. Qui réapparaît à la fin d'une façon lumineuse.
Ça, on ne sait pas ce qui va se passer.
Incroyable.
On ne sait pas.
On ne sait pas, mais bon. Non, moi j'ai trouvé que c'était très sensible, très intelligent.
Un mystère.
Mais c'est toujours, enfin, si on connaît la fin au début d'un livre, en même temps, ça ôte un peu le charme. Tu vois, vaut mieux, non ? Donc, disais-je, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est incarné. Je trouve que les personnages sont très chouettes. Moi, j'ai beaucoup aimé les relations entre ce père et ce fils, cette réconciliation tardive, justement l'ombre de cette femme qui traverse le bouquin, la fragilité des liens et leur force en même temps, même quand on s'est pas connu. Robin, là, quand il est en classe, par exemple, donc il vit dans un pays extrêmement pauvre, dans un immeuble dégueulasse, on fait réchauffer la soupe aux choux 25 fois dans la semaine, où il n'y a pas d'eau courante dans les appartements, etc. Pardon ?
Non, je dis c'est comme ça qu'elle est bonne.
Oui,
quand
absolument.
Quand tu l'as fait 25 fois.
Oui, 25 fois, c'est peut-être 2 ou 3 de trop. Oui. Et ce petit garçon qui ne sait même pas pourquoi on le met au fond de la classe, et en fait, c'était à cause de sa mère, parce que sa mère a fait des choses qui ne plaisaient pas au régime. Enfin bon, il était mis à l'écart, il ne savait pas pourquoi. Il est méchant avec son fils, qui ne sait pas non plus pourquoi il est aussi teigneux. Sur un bateau, ce type-là, ça ne devait pas non plus... Là aussi, la vie sur les bateaux, c'est formidable, la façon dont elle le raconte, sur les chalutiers. Et je trouve que tout ça est très naturel. J'ai aimé. Bon. J'ai aimé la nature, les émotions qu'elle raconte, la progression romanesque. Je trouve que c'est une écriture tout à fait honnête qui se tient.
Bon. Éric.
Je ne voudrais pas faire de jeu de mots, mais c'est quand même un sujet bateau. Le père mourant avec le fils qui déboule 23 ans après, qui était fâché, puis qui se réconcilie. Enfin, le père, il est mourant, mais dès qu'il ouvre un œil, il se met à débagouler toute son histoire. Il retrouve une santé en voyant le fils avec qui il était fâché. Et visiblement, cette Isabelle Autissier tient mieux sa barre que son stylo, parce que c'est écrit... je sais pas, avec des palmes. Dès la première page, tu as cette phrase, « Le soleil tangentait l'horizon ». Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Et c'est le genre de fille qui veut faire un peu du style, alors elle met sans cesse au mi-temps de la nuit. Parce qu'au milieu de la nuit, ce n'est pas écrivaine, ça. Et tout est comme ça. Elle adore le verbe absorber. À un moment donné, il y a deux personnages, ils firent semblant de s'absorber, qui dans l'ébullition de l'eau et qui dans les rayures de la table. Alors ça, c'est littéraire, quand on met qui et qui. Et il y a une autre fois où alors là, c'est de la poésie pure, c'est s'absorber à leur manège le calmer. Ça, c'est pas du français, mais comme ça se passe à Mourmansk, peut-être que c'est pas encore traduit.
C'est sous-titré
et
Mourmansk.
Les personnages restent souvent interdits. Parce que là, on est quand même surpris.
Oui, bien sûr.
Et heureusement vache de dire ça, évidemment, sur 200, 300 pages.
Non, je suis pas sur 200, je suis pas allé jusqu'au bout.
Mais la toundra, c'est grand.
Non. Hein. Et heureusement, il est ornithologue, ça, j'ai compris pourquoi, parce qu'il regarde les oiseaux. Mais apparemment, il est gay, mais je ne suis pas allé assez loin pour voir si ça avait une importance dans l'histoire.
Oui.
C'est probablement la fuite aux États-Unis.
On a un peu le droit à
c'est
tout.
C'est quand même bourré de clichés. Moi, ça m'a rappelé livres de Bernard Clavel, les romans comme Les fruits de l'hiver. Alors là,
mais c'était le bon temps.
Ça ne nous rajeunit pas, ça.
Non, mais ça non plus. Alors, à un moment donné, il pleut. Alors. Elle dit Yuri, parce qu'il s'appelle Yuri, hein. Tous les Russes s'appellent Yuri ou Ivan, pensa que le ciel, lui aussi, pleurait à l'unisson de leur humeur. Alors là, moi, j'ai coulé. Hein.
C'est pas si mal.
Arnaud.
Tu as présenté le livre d'une drôle de manière, parce que tu as dit que ce personnage était exilé aux États-Unis. Oui. Et est-ce qu'il est vraiment exilé ou émigré aux États-Unis ? Et non. Là, c'est le point central de ce livre.
Sauf qu'elle parle à un moment donné de son exil aux États-Unis. Hein.
Mais oui, mais en même temps, voilà, c'est parce que donc il est gay. Parce qu'il s'agit finalement pour Isabelle Autissier, on voit bien qu'elle veut faire une sorte de roman à thèse qui couvrirait une période finalement qui irait du goulag jusqu'à la chute du mur, puisque donc il revient voir son père mourant, c'est après la chute du mur, ce qui est devenu la Russie aujourd'hui. Il y a une volonté comme ça de, mais on ne comprend rien parce que c'est noyé sous les clichés. Justement, le propos politique qui voudrait être tenu s'effondre sous la masse des clichés.
Mais elle n'a jamais voulu tenir un propos politique.
Le mélange des genres, le passage sur le chalutier, là, effectivement,
mais c'est vachement
évoque vague souvenir de Conrad avec quand même le type qui houspille les mousses, etc.
Les mousses qui sont complètement à part, les marins, les commandants.
On a l'impression qu'on est dans un roman inachevé d'Isabelle Autissier qui aurait pu être un roman en soi. Et donc, mais non, il faut repartir en arrière et puis traiter trois générations. Elle n'a pas les moyens de son ambition. Et donc, ça tombe sous des phrases qui sont d'une lourdeur, rarement atteinte quand même là aujourd'hui en 2019. Plus personne n'écrit comme
J'espère
ça.
Qu'il n'y aura pas un spot c'est d'elle fini. Juste après
c'est
le masque et la plume.
C'est tellement mal foutu qu'on a l'impression que le goulag n'a existé que chez elle.
C'est dans
sa cuisine.
Oublier Clara.
C'est pas faux, ça. C'est pas faux.
Ouais. On l'a oublié déjà.
Tu me diras, c'est pas un bon titre pour un.
C'est curé, ça commence bien.
C'est terminé.
Oublier Clara, c'est Isabelle Autissier, c'est chez Stock.
Au moins, Sarkozy n'a pas écrit Oublier Carla.
Les sept mariages.
C'est mieux vendu que Passion.
Si on n'était pas un 28 juillet, tu ferais pas ce genre de blague. Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, de Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt 2001 pour Rouge Brésil chez Gallimard. Il faut attendre la postface d'ailleurs du livre pour apprendre que l'histoire de ce couple serait, je dis bien serait, nourrie de souvenirs personnels. Donc un couple qui, dans tous les coins du monde, s'est dit sept fois oui. Alors lui, c'est Edgar, aventurier, photographe, mais aussi directeur d'hôtel, affairiste du BTP. Elle, c'est Ludmilla, née en URSS, cantatrice qui a été un temps acclamée sur toutes les scènes d'opéra. Et les deux ont trouvé que ces mariages successifs, qui suivaient des ruptures faussement définitives, étaient la meilleure manière de s'aimer longtemps. Une saga amoureuse qui court de la Russie à l'Amérique, du Maroc à l'Afrique du Sud et des années 50 aux années 2000, l'histoire étant racontée par un médecin, comme d'ailleurs Ruffin, qui aurait épousé la fille unique d'Edgar et de Ludmilla. Arnaud.
Écoutez, là, je sors de quatre romans de Ruffin. Je crois que j'ai compté, j'ai lu les quatre derniers romans de Ruffin, y compris d'ailleurs sa petite mère de roman policier, là, chez Flammarion, qui était franchement à peu près ce qu'on peut faire de pire, vraiment dans l'idée.
Mais qu'est-ce que vous êtes bégueule, c'est pas possible, sa petite mère.
Et soudainement, je lis ce nouveau livre, ce nouveau roman de Ruffin, et le type, à ma plus grande surprise, m'apparaît soudain extrêmement sympathique. Soudainement, là, c'est comme s'il avait retrouvé son mojo. Il y a une sorte de fraîcheur d'opérette. Hein. C'est une véritable opérette, ce roman. D'ailleurs, le décor, les années, hein, puisque c'est censé couvrir presque 30 ans d'histoire. Évidemment, sept mariages, on les fait pas en 6 mois non plus. Donc, ça prend un laps de temps. Et donc, on voit le décor changer exactement comme une opérette. C'est pas du tout un roman réaliste. Et on sent évidemment que... Alors, c'est un pêcheur d'or, parce que vous dites... Okay, premier mariage, ok, d'accord. Deuxième, d'accord. Troisième, ok. Quatrième, et là, vous allez voir, c'est donc pêche-tonneuse. Oui. Vous vous dites comment ça va se continuer.
Là, pour le coup, il ne faut pas raconter la fin, alors, parce que
c'est assez beau.
S'il y en a sept ou pas.
Voilà, et il y a une astuce là qui est vraiment belle, et on comprend que donc Ruffin lui-même a fait cette expérience qui est de se marier et de divorcer, évidemment, avec la même personne.
Pas autant de fois quand même. Je crois qu'il s'est remarié trois fois. Avec la même. Il était marié donc, une fois.
Oui, mais c'est de la paresse.
Il y a l'idée quand même de rejeter les dés. Il y a quelque chose de joueur qu'on voit bien dans le trajet, le destin des deux personnages. Évidemment, encore une fois, c'est une opérette. Tout est exagéré. Elle devient l'équivalent de la Callas. Lui devient l'équivalent de Bernard Tapie. Tout ça est,
mais. Ça, c'est assez ça, oui.
Hein, oui,
c'est Callas Tapie, c'est assez ça.
Voilà, ça va aussi vite que ça. Mais en même temps, vous êtes embarqué et il y a une légèreté, il y a une pétillance, il y a quelque chose, voilà, d'une bonne humeur. C'est un livre qui est de bonne humeur. Et je trouve qu'il
c'est
ne
vrai que
l'était
par
pas
rapport à la série africaine qui était terrible, qui devait être une série qui s'est arrêtée en cours de route d'ailleurs. Par rapport à ça, c'est presque un Ruffin qu'on a du mal à reconnaître d'ailleurs.
Ah oui, mais pétillant, alors je sais pas, il doit venir.
La preuve.
Peut-être, il s'est sans doute remarié là récemment, peut-être que parce que là, il est en forme et c'est très plaisant à lire.
Eric.
Ah, c'est pas Benjamin Constant.
Ah, lui non plus.
Que j'aime bien, moi aussi, mais voilà, c'est bien.
Oui, c'est un peu l'histoire d'un Eddie Barclay monogame, qui se remarierait tout le temps, mais avec la même fille. Et le livre a beaucoup d'allant, d'enthousiasme, ouais. De légèreté, de vitesse. C'est le roman feuilleton, mais très, très bien fait. Je suis allé jusqu'au bout, pour une fois. Et là, on n'en revient pas, ouais. Hein, parce qu'on se dit, la cala, c'est tapis, ça va être bateau. Et non, il cavale, il s'amuse, et il n'est pas dupe de ce qu'il fait. Il y a plein de...
Puis ils font plus de pays qu'Isabelle Autissier.
Oui, aussi, oui. Mais c'est ça qui est bien, plus de pays. Il y a un peu d'humour aussi, parce qu'elle, à un moment...
Un peu, pas encore. Peu.
Non, oui. Il y a de tout là-dedans.
Il y a un peu de politique aussi.
Il y a un peu d'humour, oui. Parce qu'à un moment, elle divorce, c'est l'hiver, elle sort du palais de justice, elle se dit, je vais me jeter dans la Seine, elle dit, je me serais bien tué, mais j'ai peur de m'enrhumer. Il y a des choses comme ça. Et puis aussi, il y a tous les clichés du genre. On parle du babil des gouvernantes, des enfants qui gazouillent. Ça le gêne pas du tout. Et ils foncent là-dedans. Et il y a le Bernard Tapie. On sent que c'est la dégringolade du type. Il a commencé par vendre des livres anciens. Ensuite, il y a un petit mieux, il dirige des hôtels de passe. Et après, il entre dans le BTP, le luxe à la Vuitton, et à la fin, désastre absolu, il a un empire de presse. Mais tout ce qui arrive est assez marrant, documenté, et c'est complètement invraisemblable, mais pourtant on y croit tout le temps.
Comme c'est invraisemblable, mais
comme
crédible.
Comme les bons films de Lelouch.
Crédible.
Comme les bons films de Lelouch. Du romanesque pur.
Lesquels bons films de Lelouch?
Il y en a plein.
Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord, là, pour le coup.
Si.
Patricia.
Ouais, c'est très romanesque en soi de se marier autant. La question, c'est de savoir à chaque fois pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de passer par cette espèce de. Par le mariage, quelque chose de très social.
C'est ce qui lui donne un sens.
Oui, d'accord. Mais
au remariage.
Oui, d'accord. Mais enfin, tu peux te séparer à chaque fois. Enfin, je me dis que les avocats marchent bien avec eux. Parce que si à chaque fois.
Attends, tu penses toujours à l'argent.
Ben non, mais enfin, tu paries 7 fois, ça coûte quand même un bras.
Bah voilà. Voilà.
Enfin, bon, bref. Non, j'ai adoré ce bouquin. Hein. En plus, il a eu l'intelligence. Parce que je pense qu'il a mis beaucoup de sa propre vie. C'est assez autobiographique.
Est-ce que c'est la sienne ou est-ce que...
Il le dit à demi-mot.
Oui, il le dit à demi-mot.
Dans la postface, il y a quelque chose.
Donc, mais c'est très intelligent, c'est justement, d'avoir fait dire par le biais de ça.
Oui, c'est ça.
Il n'aurait pas dû mettre ça.
Non, mais c'est un document. Ah, c'est un document
j'aime bien, moi.
Non, mais en plus, ça marche un peu comme un conte, comme s'il y avait même une morale à la fin, c'est-à-dire que finalement, il ne faut pas confier le mariage, disons, une affaire trop sérieuse pour le confier à des jeunes gens. Je trouve que ces deux, mais ils sont... extraordinairement sympathique. Enfin, on a envie d'aller, de partir en vacances avec eux, de dîner avec eux.
Non.
Ah, bah si. Ils sont sympas.
C'est leur fille qui est la plus emmerdante, je trouve, un peu.
Oui.
Ouais. Oui. Oui, bon, ça peut être. Enfin, eux, en tout cas, sont très sympas. Non, moi, j'ai trouvé que c'est très intéressant de voir l'amour, justement, sous l'angle des séparations et de se dire que c'est ça, finalement, qui nourrit une histoire plus que les retrouvailles.
C'est des chapitres.
C'est d'accepter les ratages. Et c'est beaucoup plus intéressant et ambitieux, probablement. Et c'est en ce sens-là que c'est une vision tout à fait exigeante et optimiste de l'amour, c'est plus difficile d'aller se remettre avec la même personne et de la reconquérir que de changer d'herbe. C'est-à-dire qu'après, tu vas rechanter
la même... T'as compris ça.
Tu vas rechanter, bah, tu vois.
Ça coûte moins cher.
Tu vas chanter la même chanson ailleurs à quelqu'un qui ne l'a pas entendue. Ouais. Bon, qui certes sera...
Tu gardes les meubles.
Probablement charmé. Sauf qu'aller chanter la même chanson à la même personne, ça veut dire qu'il faut que tu changes de tonalité, il faut que tu changes quelque chose. Et ça, c'est...
Ça tombe bien, les cantatrices.
Ça t'oblige à avoir plus d'imagination et plus d'exigence.
Michel.
Non, mais c'est un objet littéraire très singulier, très curieux, très inattendu. Je partage beaucoup de ce que vous avez dit. Je me suis tout le temps demandé, tout en lisant le livre, pourquoi je lisais ce livre, pourquoi je m'intéressais à ce livre.
Ben parce que je l'avais inscrit au programme.
Qui ne m'intéresse pas, et pourtant qui m'intéresse. Enfin, je trouve que le petit texte à la fin, justement, je suis pas d'accord avec Eric. Il a raison, cette espèce de petite post-scriptum finale où il explique que l'accroissement de la durée de la vie fait que ce qu'on n'envisageait pas dans le monde du roman traditionnel, maintenant on peut l'envisager sur des plus longues durées et avec des recommencements et une sorte d'éternel retour romanesque qui a effectivement quelque chose d'assez mystérieux et qui fait qu'on le lit, qu'on s'accroche, alors même que ça ne m'intéresse pas. Je préfère les oiseaux de la toundra, personnellement.
Au quoi, au mariage d'Edgar et de Ludmilla?
Si, non, mais un tour, comme ça. Ouais.
Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est donc Jean-Christophe Ruffin, c'est chez Gallimard, Un matin d'hiver de Philippe Villain, l'auteur de Pas son genre, de La fille à la voiture rouge. C'est chez Grasset et c'est le premier de ses romans, du moins c'est ce qu'il dit, qui ne soit pas autobiographique. Je n'ai rien inventé, alors là il écrit ça en préambule et pas en postface, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que retranscrire le roman vrai d'un amour, en l'arrangeant pour les besoins de la narration. Bref, tout commence en 2004 à la fac de Jussieu. On est donc à Paris. Julie, la trentaine, originaire de Poitiers, enseigne la littérature française. À côté, Dan Peters, un Américain natif d'Atlanta, enseigne la sociologie. Il a fait une thèse sur le racisme aux États-Unis. Bref, Julie et Dan se plaisent. Ils se marient. Une petite Marie naît. Les années passent. Marie grandit. Ça, c'est logique. Dan rentre souvent dans son pays pour son travail, sans qu'on sache vraiment ce qu'il fait, et puis il revient. Et puis un jour, 5 ans après la naissance de Marie, Dan annonce qu'il doit repartir à Atlanta et poursuivre à Houston ses enquêtes de terrain de sociologue. Julie, elle s'inquiète pas. Elle s'étonne quand même de ne pas recevoir d'appel, pas de texto de son mari. Le portable ne répond plus, plus aucun mouvement. Et ça, c'est quand même le plus singulier. Sur son compte en banque, ça devrait te toucher, Patricia.
Ah oui, j'ai tout de suite remarqué ça.
C'est aucun mouvement.
Aucun mouvement.
Ni entrée, ni sortie. Hein.
Tu devrais avoir honte.
Dan a donc totalement disparu. C'est un évaporé, ce que les Japonais appellent un joatsu. Il paraît qu'au Japon, d'ailleurs, j'ai appris
beaucoup
ça, il y a 100 000 joatsu chaque année. C'est fou, hein. Bref, Julie se demande s'il y a plein de choses possibles. S'il n'est pas un agent infiltré de la CIA, s'il n'a pas fondé tout simplement un autre foyer ailleurs. à moins qu'il n'ait été tué dans les bas-fonds de Houston par ceux sur lesquels il enquêtait. C'est donc cette histoire que, 15 ans après les faits, Julie aurait totalement racontée, livrée à Philippe Villain, qui en fait donc ce livre, je le disais, le seul de ses romans qui ne soit pas intime et personnel, même si moi je soupçonne un tout petit peu à la fin du livre, si l'histoire est vraie, d'être tombé amoureux de Julie. Éric.
Bah, je ne devrais pas le dire, j'ai pris un verre hier avec Dan, mais il m'a interdit de dire ce qu'il était devenu. Non, mais je pense que c'est une fiction complète.
Ah, moi, je ne crois pas du tout. Je crois assez sincère.
Ah, oui.
Jusqu'à maintenant, il n'a jamais triché avec ses histoires.
Oui, mais il a peut-être eu envie. En tout cas, c'est très réussi parce que, qu'elle existe ou pas, cette fille, on y croit complètement. Et c'est quand même très intéressant de voir un type très autocentré comme Villain se mettre dans la peau d'une femme, et qui plus est, d'une femme abandonnée par un Américain. On voit ce ton placide et désolé qu'il prend. Il arrive à se mettre dans la tête de cette fille qui revoit son mari disparu. La seule image qu'elle arrive à reconstituer, c'est quand il prenait la tête d'une tortue. C'est quand même assez beau comme histoire. Et il y a un moment donné, elle va à Houston et elle s'assied sur le banc.
Oui, parce qu'elle va aller avec les flics.
Ouais, elle va retrouver
essayer,
les parents.
Elle se demande, avec le père.
Avec le père.
Elle s'assied sur le
banc du parc de Houston où Dan passait des heures à lire, à regarder ce qui se passait. Et la scène est très magique aussi. Il y a plein de moments comme ça. C'est tellement réussi, tellement romanesque que au fur et à mesure, on se dit, si jamais il revenait, elle serait peut-être bien embêtée.
Oui.
C'est ça qui est curieux. Alors,
sauf que 15 ans après...
C'est la question que lui pose d'ailleurs l'homme
absolument.
Avec qui elle va vivre.
Non, puis le portrait de l'Américain est très bien, parce qu'il ne s'est jamais senti vraiment français, parce qu'il a réécouté Summertime de Janis Joplin, qui lui a confirmé que l'Amérique lui coulait dans les veines. Et en tout cas, c'est quelque chose de très très bien. Et si l'histoire est vraie, elle est libre. Donc, il faut en profiter et lui écrire.
D'où le fait que je soupçonne Villain de...
Et elle enseigne la littérature. Elle dit insensible. J'enseignais Proust, Stendhal, Flaubert et quelques amis. Et on peut ajouter à cette liste d'amis Philippe Villain pour moi.
Oui. Mais cela dit, c'est une vraie question au-delà du
mais roman, ça prouve que
sur ces gens qui réussissent à disparaître totalement, ouais, sans laisser aucune trace. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense dans nos sociétés modernes. Arnaud.
Oui. C'est-à-dire que je trouve que Philippe Villain, depuis un moment, a trouvé sa facture. C'est des livres Harlequin pour.
Oh non, non, je suis pas d'accord.
J'ai le droit de m'exprimer. Ce sont des histoires Harlequin, mais c'est
très bien écrites.
Des histoires d'amour écrites pour CSP+. C'est comme ça. C'est ça l'idée. Maintenant, il fait des livres qui sont toujours d'ailleurs où il y a une intelligence à l'œuvre. J'avais adoré Pas mon genre.
Pas son genre, adapté d'ailleurs par Lucas Bellevaux au cinéma.
Voilà, et qui est un très très beau livre sur l'histoire donc d'un jeune philosophe qui tombe amoureux d'une coiffeuse avec ce voilà.
C'était un peu la Dentelière version.
Oui, ou Proust.
Année 2000, aussi,
évidemment.
Non, mais parce que la Dentelière, c'est exactement la même histoire. Oui, Pascal Lainé.
Mais encore une fois, justement, c'est qu'il part à peu près d'un stéréotype. Donc, il reprend des formules. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement l'espèce d'indécision dans laquelle on est, nous, lecteurs, de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est une fiction ou pas. Moi, je pense, comme Eric, sur le fait que c'est une fiction. Il y a trop de choses invraisemblables. Et il y a un problème, si vous voulez, sur... Donc, le livre fait 150 pages, à peu près. Il est très court, comme tous les livres de
Villain. Oui, il écrit toujours bref.
Voilà, il écrit toujours des petits livres. C'est pour ça que je dis qu'il a trouvé sa facture là depuis un moment. Donc ce projet-là est intéressant, mais personnellement je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et notamment dans le passage du temps. Ça se déroule donc forcément sur un laps de temps très long.
9 ans.
Et donc,
non, oui, mais elle raconte l'histoire 15 ans après la disparition
de
Dan. Hein.
Mais l'histoire en elle-même dure voilà un certain nombre d'années. Parce qu'il y a une petite fille aussi qui est là, qui grandit dans l'absence de son père. Qu'est-ce qu'on raconte à l'école, etc. Il y a énormément de choses, mais quand même il y a quelque chose qui ne tient pas dans le fond de cette histoire, qui n'est pas ou pas assez fouillé. On imagine, par exemple, si c'était vrai, le travail qu'aurait fait Emmanuel Carrère. C'est-à-dire qu'il aurait forcément essayé de trouver des preuves de qui était. Je veux dire, ne serait-ce que dans cette fac. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait, là? On ne sait pas s'il est prof, étudiant.
Mais si, il est prof de sociaux.
Oui, mais les profs de sociaux américains, il y a quelque chose là qui...
Oui, mais ils ont du temps libre.
Ils donnent des...
Puis la sociaux, maintenant.
Il a le temps d'être agent secret en même temps que prof de sociaux à Jussieu ou Dieu sait où, quoi, à Montaire. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui fait que je n'y crois pas.
Bon.
Et donc je lis ça et je dis, mais ça ne va pas.
Moi j'y ai cru, Michel.
Mais ce qui fait qu'on se demande si c'est du lard ou du cochon ou si c'est vrai ou pas, et fait vraiment partie, je trouve, du petit génie malicieux de Villain. Oui, oui. Moi, j'avais beaucoup aimé La fille à la voiture rouge, et ça m'avait inspiré une réflexion que j'ai retrouvée là en lisant ce livre, c'est que finalement, Villain est toujours plus intéressant que ses propres personnages. C'est-à-dire qu'il est tout le temps comme quelqu'un qui se... un peu dans son cabinet de curiosité ou qui examine des objets, qui essaye de voir comment ils fonctionnent, comment ils sont construits, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la littérature ou pas, quels sont les liens intimes entre la réalité telle qu'on l'imagine. Enfin, et justement, on ne peut pas imaginer la réalité, on est condamné à faire de la fiction. Donc, tout ça me paraît vraiment, aujourd'hui d'ailleurs, singulièrement exotique. Les romans qui s'écrivent aujourd'hui sont des romans hystériques, on hurle partout, tout le temps, etc. Là, il y a une sorte de délicatesse. Mais
c'est vrai de tous les livres de Villain qui sont toujours très élégamment.
Très élégant, c'est pour ça que je pensais à Benjamin Constant.
Précieux un peu, quelquefois.
Non.
Limite.
La fille à la voiture rouge, c'était Benjamin Constant et Madame Récamier en mini-jupe. Là, c'est pas Madame Récamier en mini-jupe, mais... J'aime beaucoup ce démêlé qu'il a avec la réalité. Voilà.
Patricia.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Michel, qu'il est plus intéressant que ses personnages. Je l'exprimerai peut-être pas comme ça, mais c'est probablement la raison que tu disais. On le soupçonne peut-être d'être amoureux de cette femme.
Il faut quand même rappeler que tous ses livres précédents, y compris les premiers, dont son histoire avec Annie Ernaux, sont toujours fondés sur une... D'abord, c'est toujours des romans amoureux, toujours fondés sur une histoire qui
disait Arlequin. Arlequin, c'est
vraiment. Mais non,
là, tu te trompes.
Il y a une perversion. Mais comment tu peux dire ça alors que c'est écrit ? Mais il a toujours écrit sur l'amour. C'est son unique
sujet. Là, il écrit non seulement sur l'amour, mais c'est vraiment le portrait d'une femme, parce que c'est une héroïne moderne, cette nana, hyper courageuse.
Comme disait Barthes, nous deux est plus obscène que Sade. Arlequin est plus obscène que.
Une femme très courageuse.
On
peut parler. Pardon. C'est incroyable. Et je trouve que quand même, ce à quoi elle fait face, c'est impensable. Enfin, déjà, ne pas savoir comment quelqu'un est mort, ne pas retrouver un corps...
C'est un mort vivant au sens propre.
C'est déjà terrible, mais savoir comment, ne pas savoir comment il est mort, ou même s'il est mort, c'est... Mais je sais pas comment on peut survivre à ça. C'est vraiment une histoire de dingue. Et il arrive à écrire un livre qui est assez minimaliste par rapport à cette histoire de dingue. Oui. Je sais pas, Emmanuel Carrère aurait peut-être fait un roman foisonnant autour de ça, peut-être. Mais lui, justement, c'est ramassé, c'est d'une discrétion folle. Et les capacités vitales de cette femme et les scrupules qu'elle a, mais qui sont pas des scrupules moraux vite vus et absorbés parce qu'on les lui a appris. Non, c'est vraiment elle qui se demande si elle peut, par rapport à sa fille, fréquenter un autre homme, qui se demande par rapport à...
C'est longtemps après qu'elle se pose cette question-là.
C'est 9 ans après où elle s'autorise à aimer à nouveau parce que, parce que c'est la vie et parce que c'est assez normal. Et qu'est-ce qu'elle ferait s'il revenait? Toutes ces questions-là, c'est des questions vachement subtiles qui sont posées par ce livre. Moi, je le trouve absolument super.
À la française.
Un matin d'hiver de Philippe Villain, c'est chez Grasset. Floride, tiens, un recueil de 11 nouvelles. Vraiment entre chien et loup, de la jeune américaine Lauren Groff, que traduit par Karine Chichereau aux éditions de L'Olivier. Lauren Groff, qui est devenue célèbre depuis qu'en 2015, Barack Obama lui a écrit une lettre pour dire, qu'elle a beaucoup fait circuler, pour lui dire qu'il avait adoré son roman Les Furies. La Floride du titre n'a évidemment rien de paradisiaque. On y voit notamment une jeune prof d'université. Oui, ils font pas grand-chose, d'ailleurs, Patricia.
Ils ont plus de vacances.
D'ailleurs, CNRS à côté.
Devenir SDF. On voit une mère de famille marcher la nuit sous la lune pour ne pas redevenir une femme qui hurle. Une célibataire trentenaire qui sent déjà, là je cite, sa beauté s'envoler. Ou alors ces deux fillettes abandonnées par leur mère sur une île. Sans compter les ouragans, les cyclones, les rats de marée, la moiteur, les serpents, les alligators, les cafards. Une panthère mystérieuse, et puis cette atmosphère de fin du monde. J'oubliais évidemment, j'étais sensible à cette nouvelle où une romancière de Floride va en Normandie pour écrire sur Maupassant, et en fait pour beaucoup boire même.
Il n'y a que ça à faire.
Quoi, en Normandie? T'es malin, toi, t'es vraiment... En tout cas, moi, qu'on puisse dire, c'est que Lauren Groff, qui habite la Floride, d'après ce que j'ai lu, elle ne porte pas son état dans son cœur.
La haine à ce point-là, ça peut ressembler à de l'amour, non?
Oui, bien, elle n'est pas originaire de Floride. Elle vient du Nord.
Alors, oui, mais elle y habite. Elle y habite depuis un peu de temps.
Y habite un peu.
Mais j'ai rarement vu une Américaine détester à ce point son
je dirais
sa région,
pas ça,
son mais... état avec une telle violence. Non, Patricia ?
Je dirais pas ça.
Non, je sais pas, moi j'ai jamais vécu dans un autre état que Paris, donc je peux pas dire, j'en sais rien. Non, je sais pas si tu peux détester à ce point-là, mais c'est peut-être alors parce qu'elle est... Oui. Apparemment, c'est son homme qui fait qu'elle habite là-bas. Non,
elle
c'est
ne
ça,
déteste
l'histoire.
Pas, c'est pas vrai, je crois.
Ah si, attends, elle est quoi sacre par tous les ports de sa peau. La femme qui hurle, c'est peut-être elle. D'ailleurs, elle est extraordinaire, cette première... elle écrit « Je ne sais pas comment j'ai pu devenir une femme qui hurle ». Ça commence comme ça, la première nouvelle commence comme ça, c'est extraordinaire.
Et donc, tu veux dire autre chose sur le livre, non ?
Ah non, moi j'ai trouvé que c'était... Alors parfois, c'est quand même à la limite, c'est un peu... Il faut le distiller, il ne faut pas le,
ah oui,
le lire...
pas dans la continuité.
Pas dans la continuité, parce qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, c'est quand même un peu hystéro. Mais je trouve que l'état de panique dans lequel elle met ses personnages, elle dépeint formidablement bien ce mal-être qu'on a. Tu ne sais pas très bien si c'est de la froideur qui est une défense ou si c'est une folie pure. À un moment donné, elle dit « Son corps était flou de fatigue ». Ils sont tous tout le temps en train de se vider, de se perdre, de plus savoir qui ils sont. Et c'est pas des gens, on n'est pas dans un hôpital psychiatrique.
Ah
parce
non.
que c'est des gens ordinaires, c'est des gens comme toi et moi. Enfin, ouais. peut-être plus comme...
Comme toi, plutôt.
Voilà, c'est ça. Et non, mais par exemple, les deux... Alors moi, c'est celle que j'ai eu du mal à supporter,
c'est
là. Et le chien devient loup. Ah oui. Alors ça, franchement, l'histoire des deux fillettes, là, ouf.
Elle est très dure.
Mais il y en a des, par exemple, le chasseur de fleurs, l'histoire de Halloween, elle est là.
Je suis pas sûr que Barack Obama sera aussi sensible à ce livre qu'il l'a été au Fury. Eric ?
Ben, elle pourrait très bien être Miss Météo à Canal+, mais vraiment, ce serait tout le temps des ouragans, des tempêtes.
Ça,
c'est effrayant.
Ah oui, c'est... Où qu'on aille, la pluie tombe à grosses gouttes, il y a un vent à décorner les bœufs. Et ça fait partie, c'est le vrai personnage, ça, la météo, là-dedans. Parce que tout le temps...
Les animaux aussi.
Les
bestiaires, quand même.
Il y a des serpents.
Il y a des chiens. Et les chiens sont sympas.
Une panthère aussi.
Tout consolateur, les
chiens. Et on voit que le réchauffement climatique n'a pas seulement des effets sur la nature, mais ça tape aussi sur le système des gens, parce qu'ils sont tous quand même un peu spéciaux. Il y a la mère qui s'est à moitié assommée, qui a la tête en sang avec ses deux enfants qui la gardent.
C'est beau, ça.
Ça, c'est beau, hein, ça aussi. La fille qui se balade la nuit et qui observe tous ses voisins. Un gros garçon qui court sur un tapis roulant là, pour perdre des kilos, elle compare son corps au rythme que font les lacs quand on lance une pierre dedans. Elle a des trouvailles comme ça. Il y a une espèce de suspense et puis de malaise tout le temps.
C'est le malaise.
Elle voit des fantômes. Et en même temps, avec des petites épiphanies, le voyage en Normandie, il y a les deux gamins qui lisent des albums de Tintin. Et j'imagine un petit Américain disant... 1 000 milliards de 1 000 sabords, il y a plein de choses comme ça, mais c'est quand même beaucoup moins bien que Les Furies, qui était un des plus beaux romans sur le mariage qui existe. Mais ça, c'est quand même un choc, il faut le lire, parce que c'est très pessimiste. À un moment donné, il y a une femme de 40 ans.
Elle est toute jeune d'ailleurs,
ouais, qui se regarde dans un miroir et qui dit « Mon Dieu, mais j'ai l'air d'une pute ». C'est terrible tout ce qu'elle raconte.
Oui, mais à certains moments, tu sais même pas si c'est des hallucinations,
oui,
si c'est des fantasmes, si c'est la réalité, tu sais pas.
Il y a un type aussi qui met le feu au canapé sur lequel sa femme l'a trompé, mais si tout le monde faisait ça, Habitat ferait fortune encore plus.
Arnaud ?
J'ai pensé la grande classe Obama parce que j'ai pas lu Les Furies, c'est la première fois que et j'étais très très impressionné. C'est un immense écrivain. La nouvelle en Normandie est juste mais un chef-d'œuvre absolu de la nouvelle parce que alors c'est évidemment elle est spécialiste de Maupassant qui est quand même lui aussi un spécialiste de la nouvelle
et puis du noir.
Et du noir.
Bah, c'est le Horla si c'est Maupassant hein, c'est pas
de la Normandie. Mais en même temps, il y a un regard, c'est une Américaine d'ailleurs, elle va en Normandie, explique-t-elle, avec ses deux fils, parce que elle veut échapper à la Floride en été, parce que la Floride en hiver, c'est les cyclones, mais en été, c'est juste pas tenable, dit-elle, donc elle vient en France et en Normandie. Et il y a quelque chose aussi qui se joue sur les rapports franco-américains, mais qui est très, très dit d'une manière à la fois nouvelle, parce que c'est vraiment une nouvelle génération aussi qui envisage ces rapports-là, et toujours cette idée-là qu'on retrouve... Dans cette nouvelle, il y a cette phrase que je trouve magnifique. Elle dit « Ses fils ont vécu sous les meilleurs auspices jusqu'à présent. Même si la souffrance viendra sûrement un jour, elle le sent venir, le minuit de l'humanité. » Et quand même, cette sensation qu'on a tous en ce moment, qu'elle traduit là, hein, c'est un sentiment, tous, qu'on éprouve, qu'on va être le dernier moment de l'humanité, disant « Allez, en 2050, là, tout ça, c'est fini. » Il y a tout ça dans ces nouvelles, d'une manière... comment dire, extrêmement humaine. Elle peut raconter le pire. Les deux petites filles se retrouvent dans l'île sans pouvoir...
Celle-là est très dure.
Elle est très dure et en même temps, tout le temps, l'humanité est là, à travers notamment les animaux, le rapport aux animaux. Il y a quelque chose vraiment de... c'est vraiment... Ah, c'est un très, très grand écrivain. Bravo.
Michel ?
Je pense absolument la même chose. C'est un très, très grand, c'est d'une force inouïe. Je pensais, en lisant les nouvelles, au reportage qu'on lisait il y a quelques années, quand il y a eu des inondations à la Nouvelle-Orléans. Vous rentriez chez vous le soir, il y avait un alligator qui était dans le canapé en train de regarder la télé.
Je pense pas que c'était vraiment ça, mais on peut imaginer.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que décrit cette femme, c'est un monde où il n'y a plus de sas intermédiaire entre l'horreur absolue et le petit monde familier. C'est le choc de ces deux choses-là qui fait d'ailleurs penser à Stephen King par bien des aspects. Et aussi, j'y ai énormément pensé en lisant à une romancière américaine qui est bien oubliée maintenant à tort, c'est Flannery O'Connor. La capacité d'affronter le mal dans la littérature avec le langage, eh bien, cette femme, Lauren Groff, est de cette bande-là.
Donc, Floride, c'est donc de Lauren Groff. Lisez donc, j'imagine qu'il est en poche, Eric,
Les Furies, sûrement, oui.
Et c'est donc, ça paraît aux éditions de l'Olivier. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler à quel point Olivier Cohen, aux éditions de l'Olivier, fait un boulot formidable pour la littérature étrangère et notamment anglo-saxonne. Et on termine, on va aller un peu vite, avec Cherry de Nico Walker, traduit par Nicolas Richard aux éditions Equinox Les Arènes, livre qui a une particularité. Ce gros roman de 430 pages a été écrit derrière les barreaux puisque Nico Walker, 34 ans, purge actuellement une longue peine dans une prison fédérale du Kentucky pour braquage de banque. Et il en a profité, si j'ose dire, pour raconter l'histoire de ce vétéran de l'armée américaine qui a fait la guerre en Irak, qui est tombé dans la drogue. La guerre en Irak, d'ailleurs, Nico Walker la connaît puisqu'il a été engagé après un dépit amoureux. Et qu'en 2005, il a été aide-soignant dans une unité stationnée au sud de Bagdad, dans le Triangle de la Mort, où il a ramassé d'ailleurs plus de cadavres que de blessés. Le bleu, Cherry donc en anglais, est revenu décoré et accro à l'oxycodone, un opiacé, puis à l'héroïne et enfin au braquage. On a donc compris que Cherry est très autobiographique, assez naïf, souvent trash, énorme succès aux États-Unis. Et évidemment, ce qui devait se passer se passe. Hollywood vient d'acheter les droits. Eric.
On n'est pas chez Harlequin, là. C'est, non. Apocalypse Now, à côté, c'est du Romer. C'est inouï ce qu'on lit là-dedans. Les passages en Irak, c'est terrifiant, là. C'est tout ce qui leur arrive, lui qui se retrouve propulsé.
Et pourtant, il n'est pas le premier à les raconter.
Ah oui, mais là, il fait ça avec une force, un ton. Les dialogues, on dirait du Bukowski. Mmh. Il y a de l'humour, il y a de la violence, il y a des scènes hallucinantes. Il décrit le quotidien de tous ces soldats. Là, si quelqu'un tourne un film, Apocalypse, ça va être du Walt Disney. Parce que les gars sont tellement timbrés.
Du Romer.
ils sniffent le truc pour...
Les poussiérants pour ordinateur.
Désinfecter l'ordinateur. Ils tournent avec leur petite caméra des snuff movies avec des souris qui s'amusent à brûler, à décapiter avec un coup de cigare. Il y a une scène aussi faramineuse. Tout d'un coup, il y a une tempête de sable et ils reçoivent des gouttes. Il pleut, ils se mettent sous la pluie et ils découvrent qu'en réalité, ce sont les toilettes chimiques qui ont été renversées et que le vent balance tout ça sur eux. Mais tout est comme ça. Et ensuite, il devient braqueur de banque quand il rentre aux États-Unis et il décrit cette vie de délinquance comme si c'était une guerre aussi. C'est très, très fort. Il est toujours amoureux de sa femme. Il lui dit « je t'aime » et il dit « les mots étaient sortis tout seuls, donc j'avais dû le penser vraiment ». Non, mais le type est...
Ce que tu dis pas, c'est qu'on a l'impression presque qu'il a, un peu comme en son temps, San Antonio, inventé sa langue pour raconter tout ça.
Complètement, ouais.
Alors, je sais pas quel est le rôle du traducteur, mais c'est une langue...
Ah non, mais c'est d'une force unique. C'est
Nicolas Richard est un excellent traducteur, qui a rendu, même si on a très envie de le lire directement. En américain.
En plus, il est daltonien, mais c'est pas grave, parce qu'il est engagé quand même dans l'armée, parce que il dit, daltonien, on sait déjà quelle est la couleur du sang. Et tout est comme ça dans le livre. Tout est surprenant, tout est fort, ça sent le vécu, mais transfiguré. Et il a écrit ça en prison, il va sortir en 2020. Moi, je le garderai là-bas pour qu'il écrive un autre livre aussi fort que ça.
Oui, il arrive au bout d'ailleurs de sa longue peine. Ouais. Arnaud ?
Oui, au début, là, le storytelling, le type en prison, etc., j'ai eu l'impression de l'avoir vu 1000 fois dans l'histoire de la littérature américaine. On nous fait le coup à peu près tous les 10 ans. Mais le fait est que c'est un nouveau rapport à l'écriture, c'est un nouveau rapport à les histoires de drogue, parce qu'en fait, l'histoire de drogue, c'est toujours nouveau, ça change tout le temps, c'est de nouveaux produits. Là, il y a des scènes avec le crack, etc., qui sont absolument décrites. Mais ce qui est formidable, c'est que le type est sympathique. Quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il fasse, Il le fait jamais dans un mauvais esprit, en fait. Il est toujours sympathique. On pourrait presque dire qu'il est toujours de bonne humeur, en dépit de tout ce qu'il consomme.
Il dit, je ne fais de mal à personne, je ne mange même pas de viande.
Voilà. Et il y a un côté comme ça, pieds nickelés chez lui, hein, la scène du cambriolage est juste, mais
hilarante. C'est génial,
c'est hilarante.
Ah ouais, c'est du frère Cohen.
Alors, effectivement, après.
Et c'est à cause de ça qu'il est en prison, hein. C'est à cause de, ouais, de ces braquages-là.
Est-ce que ça en fait pour autant un écrivain? J'en suis pas sûr, parce que, comme il l'explique lui-même à la fin, il y a un travail collectif, parce que maintenant, beaucoup d'écrivains disent, vous savez, l'écriture, c'est un travail collectif. Ça fait beaucoup rire, mais c'est de plus en plus le cas. Il paraît que chaque page a été réécrite 100 fois.
En France aussi, j'ai des noms.
Et comme il n'est pas à l'université, en prison, on a encore plus de temps libre qu'à l'université.
Oui, non, mais ce qui est incroyable quand tu dis qu'il a réécrit, c'est la façon dont il l'a fait, parce qu'il dialoguait avec son éditeur par téléphone. En faisant la queue avec d'autres gens.
Quand le livre est sorti en France il y a quelques semaines, les rares entretiens qu'il a donnés...
Par téléphone.
Téléphone toujours coupé par les messages de la prison.
Voilà, et pas plus de 10 minutes d'affilée, parce qu'il y en a d'autres qui attendent, etc. C'est quand même incroyable.
Non, mais il y a eu un va-et-vient, effectivement. Et on sent qu'il y a un travail, parce que quand même le plus intéressant, au-delà de ce qu'il a raconté, parce que sur l'armée américaine, évidemment, on comprend mieux pas mal de choses, finalement, que montre assez peu le cinéma américain, pour le coup. Et donc, il y a une langue, surtout, dont on sent que c'est le dernier état de l'américain, voilà.
Et puis il écrit des poèmes, le gars aussi, ouais, qu'il avait envoyé au New Yorker.
Patricia et Michel.
Non, mais j'ai trouvé que c'était... Alors, je sais pas ce qu'il écrira après, ni s'il écrira, mais je trouve que moi, ce que j'ai adoré d'abord, c'est qu'il y a pas de volonté d'analyse, même s'il... En fait, même s'il il vous livre comme ça du vécu, mais il y a quand même une analyse. C'est un côté rimbaldien. Moi, j'ai trouvé à certains moments, c'est rimbaldien. Il est invincible.
Allons bon.
Il est radical. Ah oui, mais je trouve dans sa démarche, absolument. Par exemple, quand il écrit « Nous étions juste de la piétaille, des épouvantails glorifiés ». Moi, je trouve ça rimbaldien. Bon, voilà. Et il y a une partie absolument bouleversante, selon moi, qui est l'avant-dernière partie, le retour du type. Tout a explosé, rien ne sera plus jamais pareil dans sa vie. Et pourtant... Tout est pareil. Désespéré.
Alors ça, je trouve que le cinéma l'a très bien traité, ça. Mais la littérature,
incroyable.
Moins.
Oui, mais là, il...
Voilà.
Dire qu'il l'écrit, tu prends des
coups. Michel.
J'aimerais tellement être d'accord avec vous. Pour moi, il y a un problème d'écriture. Je suis désolé. Ça ne suit pas vraiment.
Ça veut dire quoi, problème d'écriture, pour toi?
Eh ben, ça veut dire qu'on n'est pas dans le monochrome. Et là, on est dans un registre de langage qui est toujours le même. Il n'y a pas de nuances dans ce livre. Et bien sûr, tu me diras, mais pourquoi des nuances dans un univers de crimes, de violences, etc. Mais bien sûr que si, au contraire, c'est le moment ou jamais d'entrer dans le détail. Et je dis pas qu'on n'entre pas dans le détail. Je prétends pas naturellement faire la leçon sur son expérience.
Mais c'est une écriture volontairement coup de poing.
Oui, mais donc... je ne sais pas ce que ça veut dire, l'écriture coup de poing. Bah. Je ne sais pas. Et là, je suis gêné. J'aimerais vraiment être d'accord avec vous. D'une certaine façon, je suis d'accord avec vous, mais non, en fait.
Tout n'est pas coup de poing. Moi, je
n'ai
pas d'accord.
Je n'ai pas trouvé dans ce livre. Le carburant d'une littérature qui ferait que ce livre ne soit pas exactement comme il est là maintenant. Voilà. Donc,
c'est ton droit.
Désolé.
Hein. C'est ton droit.
Oui, oui.
Cherry, c'est donc signé Nico Walker et c'est aux éditions Equinox Les Arènes. Allez, le temps des conseils est venu. On va commencer avec l'ami des universitaires, j'ai nommé Patricia Martin.
Casabianca de Jacques de Saint-Victor aux éditions des Équateurs. Vous le connaissez peut-être, lui il est journaliste, il est historien, c'est un spécialiste de la mafia et il n'en fait pas, il l'a toujours dit, il est marié avec Michela, enfin je ne sais pas si c'est son mari, mais il vit avec Michela Marzano qui est une philosophe italienne qui a été au Parlement, élue italienne et ils adorent aller en Italie. À un moment donné ils en ont marre d'être à l'hôtel et ils se retrouvent dans un couvent que leur refilent les parents de cette Michela. Et ils vont retaper le couvent. Et dans ce couvent, il y a un cercle de jeu. Enfin, c'est hyper bien foutu, mais ne me regardez pas avec
des yeux. Un cercle de jeu dans le couvent.
Il y a eu un cercle de jeu, il y a eu une mafia locale, et lui, comme c'est un spécialiste de la mafia, voilà le début. C'est comme ça peut se lire comme un polar. C'est aussi l'histoire d'un couple qui est pas du tout ordinaire, qui est assez fragile. C'est un très joli livre, je vous assure.
Et c'est aux éditions des Équateurs, hein.
Voilà. Et si vous aimez l'Italie, vous allez en prendre pour.
Le conseil de Michel.
C'est un petit livre formidable.
Introuvable en librairie.
Mais... Non, pas du tout. C'est un livre édité chez Gallimard, je dois dire, et qui s'appelle « Avec Bacon », le peintre Francis Bacon, par Franck
Maubert.
C'est un petit livre formidable, de simplicité. C'est une grande chance de pouvoir rencontrer Francis Bacon. Et il a cette intelligence, Maubert, de ne pas faire le numéro « Moi, j'ai rencontré Bacon ». Et il le laisse venir et on découvre un Bacon tout à fait surprenant, enfantin, généreux. Et c'est délicieux, vraiment. C'est très, très réussi, ce livre.
Et j'en profite pour signaler qu'il va y avoir une très grande exposition Bacon au Centre Pompidou dès la rentrée, dès le mois de septembre. Ouais. Mon conseil, c'est un pavé pour la plage, qui est en plus un bon roman, ce qui est en général assez rare, parce qu'un pavé bon roman, c'est plutôt un oxymore. Et là, c'est Camille et François, qui est une saga de presque 500 pages, signée Gérard Pusset aux éditions du Rocher. Et ça va du Paris occupé aux attentats des Tours Jumelles de 2011. C'est écrit un peu à la manière des destinées sentimentales de Chardonne, avec l'amour entre Camille et François, qui s'aiment comme une sœur et un frère qui ne sont pas. Oui. Et c'est très bien résumé par la première phrase. Tout jeune, Camille et François couchaient déjà ensemble. Lorsqu'ils se rendaient au square, c'était dans le même landau. Elle va réussir à New York. Lui, il va devenir sculpteur d'œuvres. Et je vous laisse découvrir comment ils vont vivre et mourir. C'est Camille et François et c'est Gérard Pusset au Rocher. Le conseil d'Éric.
Un poche, simple journée d'été, le premier livre de Frédéric Berthet qui était paru en 84 et qui avait été découvert par Philippe Solers. Et c'est vraiment épatant. Un recueil de nouvelles qui fait penser à la phrase de Larbeau dans Fermina Marquez, « Tiens, des jeunes filles ». Effectivement, il y a plein de jeunes filles, de cours de tennis, de villas au bord de la mer, de soirées qui ne veulent pas finir. Et on voit là-dedans que Berthet, qui est mort, hélas, en 2003,
très jeune,
aurait pu être notre Salinger. Et c'est un très, très grand regret qu'il ait disparu si tôt. Mais pour le découvrir, il faut lire ça et son chef-d'œuvre « Demmler s'en va » où il avait prévu sa propre mort.
Le conseil pour finir, Arnaud.
Si jamais vous passez vos vacances à Paris, que vous soyez parisien ou pas d'ailleurs, je vous conseille un livre de poche, mais inédit, qui s'appelle « Éloge de Paris » de Maëlle Renoir. Ce sont des petits textes sur Paris, hein, tout simplement.
Tout à fait d'accord.
Et qui sont absolument magnifiques. C'est vraiment, c'est des textes très courts. Il y en a un, par exemple, sur la poste du Louvre, qui est un souvenir pour tout, enfin, qui est au-delà du souvenir, qui est un symbole, voilà, la poste du Louvre, toutes les histoires.
Faut dire qu'elle a été ouverte toute la nuit.
Toute la nuit.
Quand on était en retard pour expliquer ses impôts,
tous les Parisiens, oui, mais pas simplement.
Toi, l'argent, envoyer des lettres d'amour, non, mais les impôts.
Quand j'allais chercher un mandat.
Il y a un mandat de Radio France, tout ça. Oui, d'accord, on a compris, Patricia.
Il y a une balade en Vélib' jusqu'à Auteuil, dans les pas de Marcel Proust, via le livre de Jean-Yves Tadier, où Maëlle Renoir décrit l'avenue Marcel Proust à Paris. Enfin, donc vous pouvez voyager avec ce livre. C'est une manière, à mon avis, de
le faire en plus. On peut le dire à Patricia, c'est un livre pas cher, en plus.
Oui, alors il n'est pas cher.
Combien, dis-moi.
Voilà, non, mais 7,80 €.
Ça va, oui, ça va.
On lui avait donné
quoi que si tu convertis en France, ça fait quand même pas mal.
On lui avait donné le
prix. Ça, c'est encore plus.
Et franchement, c'est un très, très bon écrivain.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Patricia, Martin, Michel Crépu, Arnaud Vivian, Éric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, au théâtre de l'Alliance française à la technique, et je les remercie, il y avait Cédric Châtelu, Julie Garraud, ainsi que Laetitia Delgado. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu exceptionnellement, attention, le mercredi 14 août, et c'est au Ground Control, 87 rue du Charolais, dans le 12e à Paris, pour deux émissions. L'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.
Merci Jérôme Garcin. Je vous rappelle que l'émission du 18 août sera dédiée à la journaliste et critique du Masque et la Plume, Danielle Eman, pour assister à l'enregistrement de ce Masque et la Plume consacré au cinéma. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur franceinter.fr.